RCF.
Politiquement vôtre, le rendez-vous politique de RCF en Lorraine. Présenté par Roger Quézel.
Bonjour, bienvenue dans Politiquement vôtre, l'émission politique de RCF Lorraine, réalisée par Roman Féocure. Politiquement vôtre est diffusée tous les mardis à 19h15 sur RCF Jéricho-Moselle et le samedi matin sur RCF Lorraine. À mes côtés, comme chaque semaine, dans ce studio, fidèle au poste, Arlette Perjean, qui est, vous le savez maintenant, la cheville ouvrière de cette émission. Et nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Fernand Lormand, maire de Dieuze, premier vice-président du conseil départemental de la Moselle. Bonjour Fernand Lormand.
Bonjour.
Avec vous, nous allons évoquer l'actualité moselane, régionale, nationale et internationale. Et les sujets ne manquent pas, comme chaque semaine. Nous allons commencer par une tradition qui est le portrait de notre invité, portrait préparé par Arlette Perjean.
Fernand Lormand, vous êtes né le 7 mai 1953 à Dieuze, un vrai dieuzois, comme vous dites. Vous êtes cadre bancaire de profession, mais c'est l'homme politique que nous recevons aujourd'hui. Vous êtes un homme de droite, vous avez connu les grandes heures du RPR, de l'UMP, et vous appartenez aujourd'hui au Parti Les Républicains. C'est en 1997 que vous devenez maire de Dieuze, commune d'environ 3500 habitants, située à 65 km de Metz, dont l'histoire est fortement liée à l'exploitation du sel. En 2000, vous êtes élu conseiller général de la Moselle sur le canton du Saulnois et vous siégez encore aujourd'hui aux côtés de Jeanine Bervillers dans cette collectivité territoriale devenue conseil départemental. Vous y occupez d'ailleurs le fauteuil de premier vice-président délégué aux finances départementales et à l'attractivité. On peut dire que vous investissez sans compter pour le département de la Moselle et que votre fidélité à Patrick Weiten ne s'est jamais altérée. Votre engagement est total et vos prises de position fortes ne vous font pas que des amis, mais il convient de constater que vous savez rester droit dans vos bottes. Homme de territoire, vous présidez également la Fédération des maires du Saulnois et vous ne ménagez pas votre énergie pour défendre leurs intérêts. Très engagé pour votre commune, bien évidemment, vous avez su, en vous appuyant sur son passé, insuffler à Dieuze un dynamisme dont elle a eu grand besoin ces dernières années. Vous aimez citer les devises du 13e régiment de parachutistes, le fameux 13e RDP, qui vous a quitté, et du centre de formation initiale des militaires du rang toujours installé dans votre commune, lesquels sont « au-delà du possible » et « rien sans effort ». Fernand Lormand, c'est donc avec un intérêt tout particulier que nous vous recevons aujourd'hui pour commenter une actualité particulièrement chargée.
Fernand Lormand, Arlette vient de dire que vous étiez un homme de caractère. Vous assumez ça? Vous êtes un homme de caractère?
Oui, j'ai des convictions. J'adore ce que je fais. Et vous savez que le travail d'un élu eh bien, demande beaucoup d'engagement. Et c'est un rôle qui est passionnant. Et effectivement, le fait de travailler aussi avec Patrick Weiten, ça me permet donc de défendre aussi un département qui aujourd'hui eh bien, reprend du souffle. Et département qui a connu une histoire difficile. Hein, et effectivement, les Mosellans ne cessent pas compter. Les Mosellans veulent du résultat. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Moselle est devenue une terre d'accueil, une terre d'investissement industriel, puisque en 2018, comme l'a rappelé dernièrement le président Weiten, eh bien, on a un investissement industriel qui est très important. On s'en réjouit et on souhaite que avec les années suivantes, eh bien, marque le pas de ce renouveau de la Moselle qui en a bien besoin.
Donc il faut continuer avec énergie.
Il faut continuer avec énergie, effectivement. Il faut beaucoup d'énergie.
On va rentrer dans le vif du sujet. On a déjà commencé un petit peu avec une première question d'Arlette Perjean.
Oui, je le disais il y a un instant, vous êtes très engagé pour la défense du territoire aux côtés des maires du Saulnois.
Oui.
Est-ce que vous sentez une inquiétude chez ces élus?
Vous savez que l'inquiétude est une très mauvaise conseillère. Effectivement, les temps sont plus difficiles, mais l'effort doit être partagé, l'effort doit être aussi supporté en partie par les collectivités, mais les élus ne comprendront l'effort que si tout le monde fait des efforts, effectivement. Les dotations baissent, hein, y compris pour les collectivités départementales régionales. Chacun doit contribuer à cet effort donc pour redresser les comptes de nation qui malheureusement ne sont pas excellents. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est plus difficile, mais vous savez que l'inquiétude, on ne gouverne pas avec l'inquiétude, on gouverne avec l'espérance, c'est important.
Est-ce que vous percevez un rejet des élus aujourd'hui? Les gilets jaunes sont un peu porteurs de ça, un peu moins sur les élus locaux, est-ce que vous percevez ça?
Alors les gilets jaunes, j'aurais deux analyses. Aujourd'hui, quel que soit le pouvoir en place, Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a un ras-le-bol, mais qui date de longue date. C'est-à-dire que le président actuel, le président Macron, qui est un président courageux, n'est pas responsable de la situation. Le problème des élus en général, c'est que il manque de vision. Et vous savez comme moi que quand une décision est profitable pour une commune, pour un département, pour une région pour un pays, c'est une décision qui doit s'inscrire dans la durée. Et effectivement, ce que je peux comprendre, le ras-le-bol. Par contre, aujourd'hui, on avait une image de la France qui s'améliorait, parce que je suis en contact régulier avec des investisseurs étrangers, et malheureusement, cette opération des Gilets jaunes, qu'on peut comprendre, je ne comprends pas donc les comportements qu'on peut malheureusement dénoncer chaque week-end, mais l'image de la France a besoin d'être rénovée. Et les investisseurs reprenaient confiance, et notamment Emmanuel Macron y est pour beaucoup, les investisseurs reprenaient confiance, et malheureusement, on a entaché cette belle image de la France. C'est ce que je redoute un petit peu.
J'entendais ce week-end une tête de liste pour les européennes qui disait que Emmanuel Macron avait été élu sur une poudrière et qu'il avait craqué l'allumette. Vous êtes d'accord avec ça ?
Non, vous savez, quand un élu, je suis bien passé pour vous le dire, quand un élu a des propos francs, effectivement, bon, vous avez toujours une partie de la population ou des personnes qui ne vous apprécient pas et qui le dénoncent. Non, moi je dis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au contraire, on a besoin de vérité. On a besoin aussi de décisions où on marque les choses. Vous savez que aujourd'hui, malheureusement, on s'habitue trop au droit, et le devoir doit primer sur le droit. Alors effectivement, quand on a un salaire qui est pas élevé, quand le 15 du mois le compte est en situation de débitrice, je comprends qu'il y a un ras-le-bol, je comprends qu'il y ait donc des salariés qui malheureusement à la fin du mois ne soient pas satisfaits de ce qu'ils gagnent. Le pouvoir d'achat n'est pas assez important, c'est vrai. Mais le coût salarial est beaucoup trop important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a un coût du travail qui est beaucoup plus élevé que par rapport à certains pays concurrents. Alors, par contre, ça ne doit pas se faire au détriment du salarié. On est bien d'accord.
C'est difficile d'être élu aujourd'hui. On voit quand même un certain nombre de maires qui hésitent à se représenter. Vous percevez ça aussi dans le Saulnois ?
Oui, mais il faut accepter. C'est-à-dire, quand on accepte d'être élu, il faut accepter les contraintes. Vous savez, demander à mon épouse, une épouse d'élu est contrariée aussi. Hein. Quand elle croise du monde, on lui rappelle que malheureusement, il y a une lampe qui ne fonctionne pas ou qu'il y a un trottoir qui est mort. Ce qui est normal, un élu est au service de la population. Et puis, il faut l'accepter. Ça fait partie des contraintes. Mais vous savez que ces contraintes-là font partie de la mission.
Cela se sent plus chez les maires de petites communes ? Ils ont davantage de mal ?
C'est-à-dire que plus la commune est petite et plus ça repose sur le maire.
Ouais,
effectivement, et le fait d'avoir 36 000 communes en France, pour moi, c'est une richesse. C'est pas. En plus, ça coûte rien. On veut marier les communes. Vous savez, c'est comme les communes.
C'est prudent sur ce sujet-là, oui.
Vous savez que les recomptes communes, moi, j'y crois pas, mais j'y crois pas du tout. Il faut donner davantage de rôle aux communes, à l'initiative, et il faut que chaque commune puisse se développer. Alors, effectivement, il y a des communes qui ont besoin d'aide, et si elles le souhaitent, si elles veulent se marier avec d'autres communes, mais vous savez que moi, je crois beaucoup à l'amour, je crois pas beaucoup à l'intérêt. Hein. Alors quand on peut mêler l'amour et l'intérêt, c'est mieux. Mais vous savez que les maires doivent continuer à gouverner chez eux. Dès l'instant où le centre de décision s'éloigne du terrain, on voit bien que les grandes régions qui ont aussi leur mérite, mais on se rend bien compte que plus le centre de décision s'éloigne du terrain et plus on comprend pas bien les problèmes. Quoi. Donc si on apprend bien les problèmes, on n'apporte pas de solution.
Oui. Vous présidez une très grande intercommunalité, puisque vous avez presque une centaine de maires, si je me trompe.
Alors,
pas.
Alors je ne suis pas président de la communauté de communes.
Vous n'êtes pas président, mais vous êtes très actif.
Par contre, je suis le maire donc, de la commune la plus importante du Saulnois. Et effectivement, les secteurs ruraux doivent se battre davantage que les maires urbaines, que les villes urbaines. Les villes urbaines ont aussi leurs contraintes. Parce que vous savez, faut pas opposer l'urbain et le rural. Ça se complète très bien, mais chacun a ses préoccupations. Et effectivement, être maire d'une petite commune, eh bien, c'est pas évident. Mais quand le maire s'est engagé, il le savait. Donc, il faut pas non plus découvrir une charge qui est connue et qui est reconnue. Hein. C'est un rôle ingrat. Vous savez, la vie est ingrate, mais c'est pas grave. Il faut
savoir que c'est comme ça.
Il faut savoir que c'est comme ça. Et puis, on n'agit pas pour avoir des remerciements. On agit pour faire avancer les choses.
Oui.
Et puis, quelquefois, il faut se heurter à certaines personnes. Eh bien, ça fait partie du job.
Oui. Les Gilets jaunes ont beaucoup mis en avant le sentiment d'abandon de la ruralité, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de réponses par rapport à ça. Est-ce qu'ils exagèrent? Enfin, est-ce que c'est aussi fort que ça, le sentiment d'abandon? Est-ce que les gens ont un sentiment d'abandon aussi fort que ça dans le chaud noir?
Non, moi, ce que je regrette dans le personnage des Gilets jaunes, c'est qu'on sent un malaise, mais qui est piloté aussi. Voilà. Il faut pas mélanger les problèmes. Il faut que les politiques restent donc dans leur rôle respectif, et puis il faut que les Gilets jaunes, effectivement, puissent manifester. Mais on a compris aujourd'hui, il y a des débats. Faut voir ce qu'il en sortira. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, la France n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens financiers. Donc, si effectivement on verse donc des dotations supplémentaires, ce sera de l'endettement supplémentaire pour nos enfants demain. Donc, faut faire attention. Il faut être conscient de tout ça. On peut pas raser gratis, si vous voulez. Il y a toujours quelqu'un qui paye.
Alors justement, ce que vous expliquez là fort bien tout de suite. Ça laisse penser qu'on n'est pas sorti de cette affaire des Gilets jaunes.
Ben on n'est pas sorti, c'est-à-dire que si chacun essaye de comprendre, donc
est-ce que ça en prend le chemin?
Si le pouvoir comprend, mais à mon avis, ils comprennent. Monsieur Macron comprend très bien les choses. Et d'ailleurs, je me permets de dire aujourd'hui que ça, on a un président qui a une intelligence supérieure à la moyenne et qui comprend vite les choses. Mais le problème, c'est que on ne peut, vous savez qu'on a un système redistributif en France qui est très important, même s'il y a encore des injustices. Il y a beaucoup d'injustices, effectivement. Il y a des gens qui ont la chance, bref, de gagner beaucoup d'argent, et puis d'autres qui sont dans la misère. Effectivement, on est bien d'accord, les inégalités ont tendance donc à augmenter. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il faut que les personnes, quel que soit leur rôle dans la société, se sentent respectées là où elles se situent. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, la société laisse sur le bord du chemin de nombreuses personnes qui avaient naturellement avant des emplois. Comme tout est automatisé, malheureusement, tout le monde ne sort pas avec un diplôme de l'ENA. Il faut le respecter. Mais par contre, tout le monde est utile dans la société. Et le problème, c'est qu'il faut que tout le monde se reconnaisse à sa place. Et malheureusement, je comprends que certaines personnes soient révoltées. On veut beaucoup à la société parce qu'elles se sentent abandonnées. C'est vrai.
Oui. Fernand Lormand, vous n'êtes pas très sévère sur Emmanuel Macron, alors que beaucoup de vos collègues disent il nous a un peu abandonnés, nous les élus de terrain. Vous n'avez pas ce sentiment, là, j'ai l'impression.
Non, j'ai pas le sentiment, pas du tout. Il faut que chacun reste à sa place. Emmanuel Macron a été élu président de la République, effectivement. Personne ne s'y attendait. D'ailleurs, tous les partis politiques ont du mal à s'en remettre. Il faut le reconnaître. Et je ne suis pas démagogue. Vous savez que Raymond Barre, qui est un Premier ministre, quand le parti d'opposition trouvait que la décision était bonne, il le disait. Mesmer était pareil. Vous savez que Pierre Mesmer, qui était notre député...
Il était très proche territorialement du Saulnois.
Absolument. Moi, j'ai été suppléant du député qui a permis à ce député-là donc d'être élu. Après, enfin, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Le problème, c'est que Pierre Mesmer avait un grand ami qui était socialiste. Et quand il n'était pas à l'Assemblée, il donnait son pouvoir à un ami socialiste, mais qui respectait bien sûr son vote. Voilà. L'amitié, c'est ça. On peut être ami avec des gens qui n'ont pas la même idée. Par contre, il est important que chacun défende ses idées. Alors aujourd'hui, effectivement, on tape sur Macron. C'est l'ennemi numéro un. Macron, effectivement, il est élu. Il a été élu démocratiquement. Il faut respecter. Moi, j'ai toujours respecté les présidents qui étaient élus, même si je ne partage pas forcément leur avis. Mais je reconnais que Emmanuel Macron n'a pas fait d'erreur.
Le grand débat, vous y avez participé. Il y a eu des temps de débat dans
Chaulnoy. Dans ma commune, j'ai organisé un débat. J'ai organisé un débat et j'avais demandé donc à la préfecture qu'il me propose donc un animateur. J'ai pas voulu que les élus.
D'accord, c'est l'État qui a assumé.
J'ai pas voulu que les élus s'en mêlent. Moi, j'étais présent, mais je ne suis pas intervenu parce que j'estime que c'est pas un débat des élus, c'est un débat du peuple. Et donc, il faut que ce soit organisé par quelqu'un de neutre, et puis toutes les personnes ont pu s'exprimer. Et j'ai trouvé que c'était très bien.
Et votre avis là-dessus
Mais je trouve que c'est une bonne chose, le débat. Il faut que les gens s'expriment.
Alors comment il va sortir maintenant le président de la République sur il y a eu un temps de débat intéressant. Maintenant, comment il peut faire?
Je ne suis pas dans les secrets.
Bon, nous non plus.
J'étais la semaine dernière à une réunion au Sénat pour les finances départementales. Je discutais avec mes collègues. Bon, effectivement, c'est pas évident parce que aujourd'hui, on sent qu'il y a des besoins importants à satisfaire. Le problème, c'est qu'il faut voir qui les finance, comment on les finance. Et puis, le problème, c'est que si on veut redistribuer, il faut d'abord créer des richesses. Actuellement, on distribue de la dette. Attention, il faut faire attention à ça. Par contre, veillons à ce que les inégalités, effectivement, diminuent. Mais quel que soit le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. D'ailleurs, on a bien vu. Hein, la droite était au pouvoir, la gauche était au pouvoir. S'ils avaient été bons, ils auraient été réélus. Voilà. Donc, et puis, vous savez que... les gens ont l'occasion à chaque élection d'exprimer leurs souhaits. Monsieur Macron a été élu, a été brillamment élu, même si on peut considérer qu'un faible pourcentage, mais quel que soit l'élu qui aurait été...
Il est légitime aujourd'hui.
Il est légitime aujourd'hui, donc on n'a pas à remettre en cause son élection.
Nous sommes avec Fernand Lormand, maire de Dieu. Une nouvelle question de l'Arlette Pergent.
Oui, je termine juste avec le grand débat. Les attentes sont énormes. Alors, quels sont les points qui vous semble prioritaire?
C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait une meilleure justice sociale. Et là aussi, quand on parle par exemple de l'ISF, alors effectivement, il faut amener l'ISF. L'ISF est une connerie. Bon, excusez-moi de vous le dire. Les gens riches, ils sont riches, et tant mieux, mais je préférerais qu'il y ait plus de riches et moins de pauvres. Bon. Aujourd'hui, effectivement, il y a un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Emmanuel Macron n'y est pour rien. D'ailleurs, M. Hollande et M. Sarkozy n'ont pas trouvé de solution non plus. Hein. Et le problème, c'est que effectivement, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, il faut prendre des mesures, même si au départ elles sont symboliques, il faut bien montrer que l'effort fiscal qui est supporté parce que les riches payent aussi des impôts, et heureusement. Mais le problème, c'est qu'il faut donner l'impression, il faut donner aussi des preuves que le riche s'enrichit moins vite. Et que le pauvre, eh bien, arrive à vivre. Aujourd'hui, il n'arrive pas à vivre. Le problème, c'est qu'on distribue, effectivement, on a un régime de distribution qui est le plus élevé du monde. Et on se rend bien compte que ce n'est pas la solution. Et je pense, en toute honnêteté, que donner de l'argent à une personne qui ne fait rien, ce n'est pas non plus une bonne solution. Moi, je me souviens avoir été à une assemblée générale de la Croix-Rouge, l'assemblée départementale, et moi, j'expliquais qu'au lieu de donner des légumes, je propose un terrain avec une pioche. Alors, quelqu'un me dit, vous êtes de droite. Je lui dis, vous êtes de gauche, parce que c'est ce que vous me dites là, je vous réponds aussi maladroitement que vous. Le problème, c'est que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'humanité. Il faut que chacun ait sa place. Et il faut veiller à ce que les petits salaires puissent être relevés, effectivement, mais à condition de ne pas mettre en difficulté l'entreprise, parce que l'entreprise, elle doit vendre ses produits. L'entreprise doit rester compétitive. C'est pour ça que l'ISF, à mon avis, il vaut mieux garder les riches en France, parce qu'aujourd'hui, on fait fuir les riches, on attire les pauvres. Les pauvres, on leur place partout. Mais le problème, c'est que tant qu'on aura des riches, eh bien, on pourra aussi investir, on pourra redistribuer, on pourra leur faire payer des impôts. Il ne faut pas non plus, si vous voulez, décourager les gens à générer des richesses, parce que c'est grâce à eux, eh bien, qu'on pourra payer la dette de demain.
Une question un tout petit peu plus politique. Vous, si tu es plutôt à droite, vous êtes plutôt un homme de droite et vous assumez ça. Et comment vous voyez l'état de la droite française aujourd'hui?
Ah ben, la droite est en décomposition totale. Hein.
À ce point-là, fortement.
Vous voyez bien, d'ailleurs, par rapport au nombre d'élus qui renouvellent leur carte autant au niveau du centre que de la droite, même du PS, on voit bien que avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est arrivé parce qu'il y avait un malaise général. Le malaise général existait avant qu'Emmanuel Macron arrive. Donc il ne faut pas non plus faire supporter Emmanuel Macron donc toutes les causes du monde. Non, la droite, elle ne se reconnaît pas.
La voie choisie par Laurent Wauquiez de durcir un peu le ton, notamment sur les questions d'immigration, ça vous paraît une bonne voie ou est-ce que vous pensez qu'il dérive trop à droite?
Ben je fais partie des élus de droite qui n'ont pas renouvelé leur carte. Je vous le dis, j'ai mon cœur à droite, mais j'ai mon cœur à gauche. Parce qu'il ne faut pas non plus opposer le cœur. Vous savez que je suis un humaniste. Le social doit faire partie de tous les mouvements politiques. Et le social est important. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité. Et la droite comme la gauche, on a bien vu qu'ils ont été au pouvoir tous les deux. Et malgré les promesses électorales qu'on a pu entendre, eh bien malheureusement les résultats ne sont pas obtenus. Mais par contre, laissons donc le président en place réussir. Moi je souhaite qu'il réussisse pour la France. Mais quels que soient les partis, si vous voulez, je suis pas un démago et je perds pas mon âme, si vous voulez. Je ne suis pas à vendre et je ne suis pas à acheter. Et d'ailleurs, j'ai perdu une vice-présidence à un conseil départemental à l'époque parce que j'ai tenu, moi, à respecter mes engagements, à défendre ma commune, à défendre mon canton, à défendre la Moselle. Et je ne veux en aucun cas, si vous voulez, perdre mon âme. Il faut perdre son âme. Le problème, c'est que on n'est pas là pour plaire, on est là pour agir. Et le problème, c'est que un élu qui cherche un électeur, l'élection n'est qu'une conséquence, elle n'est pas un but. Voilà comment moi je fonctionne. J'ai une route qui est tracée, j'ai un programme, je le respecte. Voilà.
Le temps passe très vite, Fernand Lormand, on est déjà à la mi-temps de cette émission. Il y a une tradition qui fait qu'il y a la pause musicale, notre invité nous indique toujours un titre à choisir et à passer. Vous avez choisi un musicien qui est issu de Dieuze.
Oui, Gustave Charpentier, qui est né à Dieuze, qui est décédé à Paris, mais qui fait partie des quatre académiciens donc de la commune dont on est fier. Et d'ailleurs, avec Robert Leonardi, qui est un pianiste international allemand, on est en train de mettre en place une académie de musique sur Dieuze pour permettre donc aux élèves qui sortent de conservatoire, qui n'ont pas réussi donc leur niveau d'études pour accéder à un conservatoire national ou à un orchestre national, eh bien, on espère avec quelques musiciens, dont l'ancien directeur de l'orchestre national de Metz, hein, Monsieur Mercier, on essaye de mettre en place donc une académie de musique qui s'appellera Gustave Charpentier.
Eh bien, on va écouter Gustave Charpentier.
Politiquement Vôtre, le rendez-vous politique de RCF en Lorraine. Présenté par Roger Quézel.
Retour dans le studio de Politiquement Vôtre avec Fernand Lormand, maire de Dieuze. Et tout de suite, une nouvelle question d'Arlette Bergeon.
Alors, on revient à Dieuze.
Oui.
Bah, Dieuze a quand même une histoire un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Et en particulier, je pense qu'il a été particulièrement délicat de gérer le départ de ce fameux 13e RDP. Ah. Dites-nous un peu comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui.
Oui, alors parmi les épreuves que j'ai pu avoir depuis que je suis maire depuis 1997, et c'est vrai que une des plus grosses épreuves que j'ai eues, c'était le départ du 13e RDP, régiment d'élite, un régiment fantastique.
Oui, ça a été un vrai choc quand même.
C'est un choc. C'est un choc culturel, bien sûr, parce que c'était la chance d'avoir des personnes qui venaient de toutes les régions de France. Et vous savez que les militaires qui sont embauchés au 13 sont des élites de l'armée, à tout point de vue. Effectivement, c'est un régiment qui intervient sur tous les champs d'opération. Ils arrivent les premiers, ils partent les derniers, ils sont dans le renseignement. J'ai rencontré des gens fantastiques. Effectivement, j'avais choisi la date, et j'ai choisi la date du 10 juin 2011. Effectivement, ça a été pour moi une épreuve importante, puisque c'était un régiment dont l'avenir n'était pas remis en cause, puisqu'il faisait partie des forces spéciales. 850 militaires, 250 familles, 700 enfants, 20 millions de pouvoirs d'achat par an. C'était une catastrophe pour la commune, c'était une catastrophe pour le Saulnois, y compris pour la Moselle. Et effectivement, à l'époque, j'avais peu de grands élus, en dehors de Patrick Weyten, mais j'avais peu de grands élus qui ont défendu la cause. Et d'ailleurs, quand un département perd 240 millions de pouvoirs d'achat par an, j'ai pas vu beaucoup de réactions. Voilà aussi, je suis étonné, mais je connais les raisons. Et donc, j'ai dû me fâcher à l'époque, ce qui m'a permis d'avoir une école militaire, parce qu'au départ, il n'était pas prévu d'avoir une école militaire.
Oui, parce que maintenant, vous avez déjà... La première étape, ça a été cette école militaire.
Qui n'a rien d'équivalent qu'un régiment, mais je suis très heureux que 95% des bâtiments soient occupés. En plus, c'est une école qui est une référence maintenant pour l'armée de terre, puisque c'est le plus gros CFIM, le centre de formation initiale militaire de France, et aujourd'hui, ils viennent d'avoir leur seconde compagnie, et ils sont les référents de l'armée de terre pour la formation des transmetteurs.
Alors progressivement, le territoire se reconstruit. On voit bien que le Saulnois, Dieuze, est en train de reprendre de la vigueur. Et comment vous avez fait? Quelle stratégie vous avez eue pour pouvoir progressivement repartir de l'avant?
Eh bien, j'ai fait preuve de ténacité. Et j'ai rencontré des ministres, au départ avec le sénateur et le député. Et après, j'ai dû le faire seul. Bref, pour obtenir des fonds de compensation, moi je voulais pas d'argent, je voulais des clients dans les commerces, je voulais des enfants dans les écoles.
De l'activité économique.
Voilà. Alors on a pensé m'acheter avec l'argent, enfin l'argent est important, bien sûr. Et donc au départ, il n'était pas question donc que les bâtiments soient occupés. Et donc je me suis un petit peu fâché. J'ai obtenu un centre de formation initiale militaire et j'ai appris par la suite qu'on l'avait mis au départ uniquement pour me calmer. Et finalement, quand l'état-major parisien descendait faire des audits à Dieuze, bien que pendant le chemin de l'allée sur Dieuze, l'a priori était négatif, en se rendant sur place, ils se sont rendus compte qu'au contraire, comme c'est la seule école qui n'est pas adossée à un régiment, donc il y a une autonomie de l'école. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que tous les colonels successifs chefs de corps ont été exceptionnels.
Ils ont joué le jeu. Mais au-delà de l'armée, qui progressivement vous avez réussi à en faire en sorte que ça ne te parte pas en déliquescence, vous reconstituez progressivement un tissu. Vous avez de belles entreprises à Dieuze maintenant.
Alors, on a de belles entreprises, c'est vrai. Là aussi, c'est la Providence, hein, quelquefois. Moi, j'y crois. Et puis, on a construit une zone industrielle, ce qui est important, avec les fonds militaires. Là aussi, j'avais le programme des salines que quelqu'un me bloquait depuis 97, mais là, que j'ai pu intégrer dans les salines. J'ai accueilli plusieurs entreprises, dont une qui fait de l'imprimante 3D.
Voilà, c'est ça, entreprises innovantes, effectivement. C'est un fleuron.
C'est un fleuron. Et aujourd'hui, je pense même que c'est l'imprimante 3D qui a le plus de production À la journée, vous savez qu'on mesure la capacité d'une imprimante 3D donc au poids réalisé. Et aujourd'hui, voilà, ça, c'est de la chance, on a construit un bâtiment industriel. Je leur ai cédé l'ancien MS sous-officier.
Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est installée à Dieuze et qu'elle est restée en plus ? Parce qu'elle reste, c'est ça qui est important.
Eh bien, il cherchait une commune d'accueil et un sous-préfet qui me connaissait un petit peu. Il a dit « Allez là, vous serez accueilli ». Voilà.
C'est la qualité de l'accueil, la rapidité de l'accueil.
À partir du moment où il y a une entreprise, je m'y intéresse. Et la commune de Dieuze est sans doute la seule commune de Moselle à avoir pris autant de risques en bâtiment industriel, puisque quand on avait la chance d'avoir la compétence économique, la commune de Dieuze a construit 9 bâtiments industriels. On avait plus de 13 millions d'emprunts pour une commune comme Dieuze. Mais l'emprunt est là. Si les 700 emplois qui sont sur la zone, s'ils sont là, eh bien, c'est grâce aussi donc au dynamisme. Et quand un industriel rentre dans mon bureau, il a une réponse au bout d'un quart d'heure. Et puis j'ai la chance d'un conseil municipal qui me suit. Je passe au conseil municipal 15 jours après.
Vous faites ça à la luxembourgeoise.
Voilà, en gros,
c'est une réactivité voilà, assez importante.
Il faut réactifier. En principe, certains même avaient la réponse avant que la phrase soit terminée. Ah oui, parce que si on veut de l'activité, il faut accueillir l'entreprise.
Réagir très vite.
Je suis un homme d'entreprise. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les chefs d'entreprise qui investissent en France et qui investissent en Moselle. Et d'ailleurs, le président Wyton réagit de la même façon.
Nous sommes avec Fernand Lormand, maire de Dieuze. Une nouvelle question, Jean-Luc Pergent.
Oui, toujours sur Dieuze. Une ville, c'est bien sûr une ville, une région, c'est l'industrialisation, bien sûr, mais c'est aussi le commerce, et vous en avez parlé. Et bon, il y a une initiative qui me paraît très intéressante, moi, à Dieuze, cette initiative, ce dispositif de commerce à l'essai. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, alors je pense même être la seule commune de Moselle à l'avoir engagée. Voici quelques années, comme dans de nombreuses communes, les commerces ferment les uns après les autres. On avait la chance jusqu'à présent d'avoir une offre commerciale qui était excellente. Mais là, j'atteins un seuil où malheureusement, si on veut garder le client, eh bien, il faut que la zone de chalandise soit opérationnelle, soit intéressante, soit dynamique. Et effectivement, j'ai avec mon conseil municipal, avec mon collègue adjoint, mis en place donc cette opération de commerce à l'essai, c'est-à-dire que la commune actuellement rachète des commerces qui sont vides. On a signé un contrat avec Alexis pour nous accompagner.
Oui, qui est un outil de développement économique.
Voilà, absolument. Pour faire de la recherche donc de repreneurs, pour les suivre, pour leur donner des conseils. Et puis on les installe donc dans des commerces qui appartiennent à la commune, dans des conditions relativement avantageuses, pour leur laisser le temps de se lancer. Et puis, lorsque l'opération sera positive, eh bien, ils voleront de leur propre aile.
Vous êtes soutenu par le Conseil général, l'État, la région Grand Est ?
Alors, ce que je fais, en plus, c'est, vous savez, que la compétence économique, on l'a plus.
Non.
Donc, voilà. Alors,
Mais moi, c'est l'attractivité qui commence à être actif,
oui,
mais vous l'avez plus directement.
Non, plus directement. Alors, je sais que le département est à nos côtés. Moi, c'est l'attractivité. Donc là aussi, une très bonne idée de président Wyton, parce qu'au départ, quand il a créé donc cette structure qui est fondamentale, il a dû donc se confronter à l'avis donc du préfet, et puis il a dû convaincre la région. Aujourd'hui, Moselle Attractivité est une référence nationale, et beaucoup de départements donc feront de même. Et donc sachez que moi je mène donc cette opération là sans avoir la compétence, mais j'en ai averti donc bien sûr la préfecture. Si on veut que nos communes, et j'espère que l'expérience que je mène donnera donc une envie donc à mes collègues maires pour faire de même dans leurs communes anciens chefs-lieux de canton, de façon à garder une activité. Si on veut garder la population, il faut de l'emploi, mais il faut aussi donc des services. Et ça, c'est important.
La région Grand Est, vous aide là-dessus ? Oui, Jean Rottenay est venu à Dieuze ?
Oui, non, il est pas venu, mais on
viendra
en contact avec la région.
Il viendra, il est très actif.
Voilà, et puis quand la région donc a besoin d'un coup de main, le département est là. Mais ça, c'est une opération qui est importante, parce que bien sûr, on engage des fonds, mais là aussi, je travaille pour mes successeurs, si vous voulez. Voilà,
c'est un travail de longue haleine.
C'est un travail de très longue haleine. Et pour rendre la commune plus attractive, aussi, j'ai mis en place un système qui s'appelle une incitation donc à la réfection des façades. C'est-à-dire que tous les propriétaires qui réhabilitent la façade, on leur donne une subvention de 30%. Donc voilà, on s'investit pour redonner donc à la ville qui doit s'embellir, qui doit se moderniser. J'ai, avec ma tech et le PFL, j'ai l'ambition de requalifier tout le centre-ville pour redonner donc un caractère plus accueillant. Voilà. Donc on a du travail sur la planche, mais aujourd'hui, on construit demain. Voilà.
Alors, on revient à la communauté de communes. Il semblerait qu'elle ait décidé d'adhérer au pacte pour la ruralité de la région Grand Est. Alors, en quoi ça consiste-t-il ?
Eh bien, la commune de Dieu, il est pour
bien
beaucoup.
Sûr.
Il est pour beaucoup.
J'imagine.
Parce que le contrat,
c'est vous qui tirez
on l'a conçu pour Dieu.
Le sens de ma question.
Et je souhaitais que la commune en profite. Quoi. C'est que le contrat de ruralité, c'est une façon, si vous voulez, de programmer l'investissement, mais avec des actions qui s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités seront davantage sélectives dans l'attribution de subventions. Et donc, il faut s'intégrer dans une démarche. Et le contrat de ruralité, justement, permet, avec l'État, avec la région, avec le département, éventuellement les fonds européens suivant les projets, il vient de s'inscrire dans cette démarche et de remettre le territoire en ordre de marche. Alors, le problème, je ne vous cache pas, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des mariages. Moi, je crois au mariage d'amour, mais pas d'intérêt, puisque il faut que l'initiative revienne au terrain. Et le problème, c'est quand on a autant de communes où les problèmes sont différents, cette démarche de territoire n'est pas toujours comprise. Mais ça, on le rencontre dans beaucoup de communautés de communes. C'est pour ça que moi, je suis pas donc un grand défenseur des grosses communautés de communes. J'aurais préféré qu'on reste dans le bassin de vie.
Pourtant, la vôtre, c'est important.
Oui, mais elle est trop importante.
Trop grande.
Elle est beaucoup trop importante. Pas en nombre d'habitants, puisque le Saulnois ne représente même pas la ville de Montigny. Voilà. Et par exemple, l'espace est important et il est normal que les bassins de vie soient attirés donc, par différents secteurs attractifs. Moi, j'aurais souhaité des communes plus petites, mais par contre, qui permettent donc, de se fédérer pour les gros projets. Voilà. Le problème du monde rural sont les distances à parcourir. Et donc, les communes doivent rester à un échelon plus dynamique et sur des périmètres plus restreints.
Peut-être plus restreints. Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dieu et le Saulnois, c'est une région absolument magnifique, et notamment avec un écrin à côté qui est l'étang de l'Indre. Oui. Comment se porte l'étang de l'Indre et en quoi il participe à l'attractivité du territoire ?
Alors, l'étang de l'Indre est un site qui est merveilleux, d'ailleurs.
Ça fait penser à la baie de Somme, des fois.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Merveilleux, mais moi je dis toujours que la population n'est pas consciente de la richesse qu'ils ont en proximité. Et moi, j'ai mon fils qui habite à peu près d'Annecy. Quand il vient au Lindre, il est heureux. Moi, avec mon épouse, bien souvent, pour se délasser le soir ou quand j'ai une heure, on va marcher.
Oui, vous êtes à 5 km.
C'est un endroit qui est merveilleux. On se ressource. Et la nature, et le président Weyten y a veillé, et la nature a gardé ses droits. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait pas revenu donc dans le secteur depuis de nombreuses années, il revient au Lindre et la nature a gardé ses droits. C'est un endroit qui est magnifique.
Avec la ligne des Vosges qui est au fond,
le
paysage est magnifique.
Absolument magnifique, on a de la chance.
Alors la fermeture du pavillon de Lindre, justement, vous étiez informé de cette
projet il n'y a pas de fermeture.
Il n'y a pas de fermeture
Non,
c'est
une polémique. Bah
alors c'est super, c'est une excellente nouvelle.
Non, c'est-à-dire que là aussi, il faut être concret. Le Lindre est un site qui est ouvert. Du 1er janvier au 30 décembre. Je parle de l'espace. L'espace n'est pas fermé.
On peut y aller à n'importe quel moment de l'année.
Par contre, le pavillon, l'endroit, on y reçoit des groupes, on y reçoit des écoles, mais on n'est pas obligé d'ouvrir
toute l'année.
Toute l'année, et puis tous les jours. C'est-à-dire qu'on l'ouvre à la demande. C'est-à-dire que il n'est pas fermé. Et d'ailleurs, l'investissement qui était fait, on a dépensé judicieusement l'argent du contribuable. C'est pas pour le fermer, mais il faut l'adapter aux besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus, si vous voulez, une arrivée de touristes comme les grands centres urbains. Donc, mais par contre, les lieux continueront à remplir leur vocation sans problème.
Donc une fois la belle saison, maintenant, à partir du mars-avril, tout ça, ça
et bien
tout,
sûr,
ça, tout
et
ça
puis,
refonctionne.
Et puis même s'il y avait un groupe ou un colloque,
venir.
Toujours. Mais non, mais il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, ce que je regrette, c'est que les écoles... donc, quelquefois, elles vont très loin, et tant mieux, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais on a un centre d'interprétation qui pourrait satisfaire toutes les écoles du secteur. Elles devraient venir beaucoup plus.
Ouais. La question que je voulais vous poser, il y a encore un travail à faire sur la mobilisation et l'image du Saulnois de manière générale, à l'extérieur et à l'intérieur.
Mais
vous
bien
disiez
sûr,
tout à l'heure que vos concitoyens avaient... pas toujours l'impression qu'ils sont dans un véritable écrin.
Mais ça commence même pour les élus. On n'est pas assez convaincus de la richesse de notre territoire. On a un territoire qui est magnifique. Alors, toute la France est magnifique. On a des, On a des régions qui ont toutes leurs particularités, mais la Moselle a des sites Moselle Passion fantastiques, et le Lahn en est un. Et d'ailleurs, la renommée du Lahn n'est plus à faire. Mais il faut que la population soit davantage convaincue des richesses qu'elle a à proximité.
Une question, là, on revient à une question un peu plus politique. Là, qu'est-ce que vous pensez de cette région Grand Est qui a été créée il y a maintenant, sur un coin de table, il y a maintenant 2 ans? Quel bilan vous tirez pour l'instant?
La décision du président Hollande, c'était malheureusement donc de faire du mal au Grand Est. Monsieur Drian, qui est aujourd'hui ministre, a dit à Hollande, tu ne touches pas à ma région.
On n'a pas touché la Bretagne.
Et monsieur Drian, le Drian continue à travailler. Il n'a pas de problème, monsieur Le Drian. Il continue à travailler. Imaginez regrouper 3 régions, mais c'est un travail d'enfer. Alors, bien sûr, les 2 présidents successifs ont fait un énorme travail, mais imaginez, on perd du temps. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, dès l'instant où vous éloignez le centre de décision des préoccupations du terrain, allez expliquer à la personne qui gère les lycées où est le lycée de Dieuze. À la limite, la personne ne sait peut-être pas où
il est. Il y a des antennes, il y a une antenne quand même.
Oui, il y a une antenne. Mais
elle vous sert à quelque chose?
La décision, oui, mais la décision. C'est-à-dire, moi, je prends 2 collectivités, 2 seules collectivités, la commune et le département. Et d'ailleurs, à l'époque, on en reparle aujourd'hui, à l'époque, Nicolas Sarkozy avait imaginé le conseiller territorial.
Oui, on en reparle. C'est en train de revenir sur le devant de la scène.
Mais Hollande a dû se dire, tout ce qu'a fait Sarko, c'est pas bon, on annule. C'était une erreur. Parce que le conseiller départemental était aussi conseil régional, donc on économisait le nombre d'élus. Et l'élu en question balayait toutes les compétences.
Ça revient sur le devant de la scène.
C'était une très bonne idée. Mais malheureusement, donc.
Paradoxalement, tout le monde était assez d'accord, d'ailleurs, sur l'idée.
Mais bien sûr, mais voilà, on a fait le contraire. Voilà, ça c'est.
La démarche alsacienne, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, elle est étonnante.
Ça vous énerve?
Ça m'énerve pas. Le problème, c'est quand on parle de solidarité, je comprends qu'il y ait des départements qui soient plus pauvres que d'autres. Mais la démarche alsacienne, si vous voulez, il faut faire attention parce que on ne peut pas non plus être isolé, même si ce sont deux départements fortement dynamiques, bien situés, qui ont envie de travailler ensemble. Le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler seul, si vous voulez, on le voit bien. Et bon, les Alsaciens, effectivement, je pense que ça va évoluer, mais le Grand Est a du mal déjà à se construire, ne commençons pas à démanteler ce qui existe. Voilà.
On va terminer, parce que le temps passe très très vite, on est très près de la fin de cette émission, c'est aussi une tradition, par une ou deux questions plus personnelles d'Arlette Perjean, mais rassurez-vous, des questions très soft, voilà.
Bien sûr. Alors, je pense que nos auditeurs auront eu la même impression que moi. Moi, je vous ai trouvé extrêmement enthousiaste, ouvert, surtout ouvert, et extrêmement passionné. Alors, Fernand Lormand, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui?
Que la France aille mieux. Que la France regagne beaucoup d'emplois, parce qu'on a perdu beaucoup d'emplois. Et malheureusement, il y a beaucoup d'emplois industriels qui ont quitté le pays. Et que le peuple se rende compte qu'en France, on est bien. Là aussi, on n'est pas assez chauvin. Et pour ceux qui ont l'occasion d'aller à l'étranger, il y a des bonnes choses, mais on se rend compte que la France est un beau pays. Et les Français ne croient pas assez à leur pays. Et ça c'est ma crainte. Mais par contre, j'ai beaucoup d'enthousiasme parce que on a toujours su se relever de situations difficiles et il faut que les démagogues arrêtent de parler et qu'on traite les problèmes réels, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas des solutions qui n'existent pas. Il faut travailler. Les 35 heures, c'est une erreur. Que quelqu'un qui a 50 ans décide, parce que les enfants, donc, les études sont terminées, les besoins sont moins importants, qu'une personne de 50 ans décide de travailler 30 heures ou 25 heures, pourquoi pas. Mais qu'un jeune, il faut lui donner du travail, il faut du revenu, il faut donner des perspectives. Et aujourd'hui, effectivement, le jeune manque de perspectives. Il faut redonner espoir. L'espoir, c'est important. Mais l'espoir, donc, sur des données réelles.
Eh bien, écoutez, Fernand Lormand, on va terminer sur cette note d'espoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions puis d'avoir transmis votre énergie et votre enthousiasme. Merci à Arlette Perjean et à Roman Feocchio qui a réalisé ce nouveau numéro de Politiquement Vôtre. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de RCF. Nous nous retrouverons dès mardi prochain avec un nouvel invité. Passez une bonne semaine à l'écoute de RCF Jérusalem et de RCF Nancy-Lorraine.